Alors, ce message est basé sur un verset qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Nous pourrions mettre un point et arrêter le message tout de suite en disant juste « Tout est accompli ». Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a rien à en retrancher. Le texte grec n'utilise qu'un seul mot, pour signifier ce que l'on traduit, nous, par « tout est accompli », « tetelestei ». Et ce mot, il veut dire « c'est fait », « c'est exécuté », « c'est accompli ». Il a aussi d'autres sens qui sont liés et qui viendront par la suite étoffer notre compréhension du sacrifice de Jésus à la croix. Vous l'aurez compris, c'est de cela dont il s'agit. Je vous propose aujourd'hui une lecture croisée de la parole autour de cet événement majeur qu'est le sacrifice du Messie, de Jésus à la croix. La croix, c'est l'événement central de la Bible et de toute l'histoire de l'humanité. C'est le point culminant du plan de Dieu pour sa création. C'est l'accomplissement de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est l'accomplissement parfait de la Torah, que l'on traduit généralement par la loi, mais qui est bien plus que cela. C'est littéralement les enseignements, le guide, les instructions de Dieu pour son peuple. Et la croix, c'est aussi une folie. C'est aussi une folie qui est totalement incompréhensible pour beaucoup. Alors commençons par parler d'un lieu particulier que l'on trouve dans les quatre évangiles, ce lieu où se déroule l'arrestation de Jésus. Mais c'est aussi un lieu où se déroule avant tout un combat qui n'est pas charnel, un combat qui est spirituel, un combat que Jésus va livrer seul en prière. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, verset 1, on peut lire « Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Jésus se rend avec ses disciples dans un jardin. » Quand on parle de jardin, et de la Bible. C'est presque comme un retour aux sources, n'est-ce pas? À quel jardin pensons-nous en premier? L'Éden. L'Éden qui signifie « délice » en hébreu, le jardin des délices, que certains appellent aussi le paradis sur terre. Ce jardin où tout était parfait et où l'homme a connu la chute, où l'homme a désobéi pour la première fois à Dieu, le rendant ainsi lui et sa descendance coupés de la présence de Dieu, esclaves du péché et de la mort, ce jardin duquel l'homme a été chassé. Parallèlement ici, Jésus et ses disciples entrent dans un jardin qui est appelé Gethsémané, en hébreu Gatsmané, qui signifie, tout le monde parle hébreu bien sûr, le pressoir à huile. Alors l'évangile de Luc situe d'ailleurs ce lieu à la montagne des Oliviers, un lieu où Jésus avait l'habitude de se rendre pour prier. Un lieu qui a tout son sens. Il est situé en face de la porte dorée, en face du mont du temple. Et il signifie donc le pressoir à huile. L'huile, c'est la référence à l'onction. Un lieu parfait pour le Messie qui est celui qui est oint. L'huile, c'est aussi ce qui permet aux lampes d'être allumées, ce qui apporte la lumière. Et Jésus dit de lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Et Jean, dès le début de son évangile, nous dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Le Messie, cette lumière qui luit dans les ténèbres depuis le commencement. Avant même qu'il y ait des luminaires pour éclairer la terre, le Messie était là pour éclairer l'œuvre du Père. Et puis, il y a une autre référence. Dans Matthieu, nous lisons que Joseph, divinement averti, en songe, prit Jésus et sa mère, donc quand Jésus venait de naître, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Et dans Ésaïe 11, nous lisons « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Rejeton, ici en hébreu, c'est le mot « netzer ». Et c'est l'une des possibles origines du nom donné à la ville de Nazareth, Natsrat en hébreu. Le Messie, c'est donc aussi la branche, le rameau d'olivier, le rejeton, et il est dans le jardin, sur le mont des Oliviers. Si toutefois nous pensions que tout cela était un hasard, eh bien c'est raté. Et dans ce jardin donc, il y a un combat spirituel singulier. C'est l'un des rares passages, peut-être même le seul passage dans les évangiles où on peut vraiment ressentir de fortes tensions, un réel malaise chez Jésus, un combat difficile, intense. À plusieurs moments, dans les Écritures, on le voit prendre la fuite, et ce, dès son enfance, puis lorsque des Juifs cherchaient à le lapider, et quand on a cherché à le faire mourir au bord d'une falaise, mais son heure n'était pas venue. Personne n'a rien pu lui faire. Lorsqu'on lit l'épisode de la tentation, même dans le désert, Jésus est seul, tenté par le diable pendant 40 jours. Mais ses réponses sont sans ambiguïté. Elles sont puissantes et elles ferment la porte à toutes les ruses du malin. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, retire-toi Satan. En revanche, à Gethsémané, on nous parle de ténèbres, de tristesse, de mort. Jésus dit cette phrase. « Mon âme est triste jusqu'à la mort » en Matthieu 26, 38. On nous parle aussi d'agonie. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus insistait auprès de ses disciples pour qu'ils prient. « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il ajoutera « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus insiste, mais se retrouve à plusieurs reprises seul en prière. Tout le monde autour de lui tombe de sommeil. Jésus prie à 3 reprises. À ce moment, Jésus est encore libre de faire un choix. Libre de faire la volonté du Père ou libre de s'y opposer. Un choix que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Il a sans doute été tenté comme jamais par l'adversaire à ce moment. Nous n'avons que peu de détails quant aux prières qu'il a adressées au Père. Il y avait peu de témoins présents et tous tombaient de sommeil. Il reste un grand mystère quant à l'intégralité de ces prières, mais l'essentiel nous est rapporté. Là où Adam, dans son jardin, a choisi la désobéissance, Jésus, lui, que Paul considère comme le dernier Adam, a choisi l'obéissance. Et ses prières l'ont aidé dans son obéissance. Jésus ne veut pas de la coupe. Il veut qu'elle s'éloigne de lui. Il le dit à plusieurs reprises, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » L'évangile de Luc nous rapporte même qu'un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier à ce moment. Maintenant, ma question est la suivante. Comment un homme qui dira à son disciple voulant le défendre, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» À l'époque de Jésus, la référence à une légion romaine, ça représente environ 6000 hommes. 12 légions de 6000 hommes. Comment un homme qui est innocent, qui sait tout ce qui va lui arriver, qui a le pouvoir de faire intervenir instantanément 72 000 anges pour sa défense, peut-il y renoncer? L'évangile de Jean évoque aussi une situation étonnante. Lorsque les soldats viennent chercher Jésus, en Jean 18, 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi ». Ici, on ne se rend pas bien compte dans la plupart de nos traductions, mais lorsque Jésus répond à ceux qui le cherchent, il ne dit pas tout à fait « c'est moi ». En réalité, le grec nous dit, il dit « ego eimi », ce qui signifie littéralement « je suis ». Jésus, ici, à 2 reprises, leur demande qui il cherche et il leur répond « je suis ». Jésus leur répond par le nom de l'Éternel, lorsqu'il s'est présenté à Moïse à travers le buisson ardent. Dans l'Exode, au chapitre 3, verset 14, il nous est dit, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » En leur disant cela, le texte nous dit qu'ils reculèrent et tombèrent par terre. À ce moment précis, le nom de Dieu, prononcé par Jésus, qui est la parole de Dieu, qui s'est faite chair, provoque une démonstration d'autorité. Ils reculèrent et tombèrent à terre. devant tant de puissance. Comment Jésus a-t-il pu faire face à une telle tentation, celle de renoncer à la coupe ? Cela paraît impossible. Tout comme cela paraissait impossible aux disciples d'être sauvés lorsqu'ils disaient à Jésus « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » La réponse est donc simple, il est impossible à un homme de ne pas renoncer à la coupe. Ce n'est pas juste un homme qui le peut, mais c'est Dieu seul. Celui qui est de tout temps et qui demeurera éternellement. Seul Dieu peut prendre cette coupe, et c'est ainsi que Jésus se présente. Et cette coupe, il ne la prendra pas de n'importe quelle manière, car il est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui est d'abord un Père qui ne se contente pas d'un fils sur deux, mais qui veut revoir ses deux fils en vie, à la maison, à ses côtés. Lorsque Philippe demande à Jésus « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit », Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » Jésus est dans le Père est en Jésus. Et ce Dieu d'amour, c'est aussi un bon berger, qui ne se contente pas de 99% de ses brebis, mais qui est prêt à laisser tout son troupeau pour aller chercher celle qui s'est égarée et la ramener saine et sauve sur ses épaules. Jésus nous dit encore « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce qu'il a fait. C'est un Dieu tout-puissant en amour, en miséricorde et en paix. Et cette toute-puissance réside dans le fait d'aller jusqu'au bout sans commettre la moindre faute, sans commettre la moindre violence. Lorsque Simon-Pierre utilise son épée pour défendre Jésus lors de son arrestation et qu'il coupe l'oreille d'un dénommé Malchus, qui était serviteur du souverain sacrificateur, Jésus dit à Pierre « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Et l'évangile de Jean rapporte également qu'il lui dit « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Une phrase qui semble presque faire un écho à la réprimande que Jésus a pu faire à Pierre lorsqu'il lui disait « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » En d'autres termes, ne t'oppose pas à la volonté de Dieu, place toute ta confiance en lui. Jésus non seulement fait cesser toute violence, mais bien plus encore, il répare l'erreur de Pierre. Et il apporte la guérison en touchant l'oreille de Malchus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit Jésus. L'amour rédempteur de Jésus est puissant. Au moment de la passion et de la crucifixion, l'ensemble se situant environ entre 9h le matin et 15h, où Jésus, abandonné de tout, souffre dans la chair et en son esprit. Et il est tenté, encore, encore. Tout le monde attend ses prodiges, ses miracles. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons « Les passants l'injuriaient, secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple, qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même, s'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Si tu es le Fils de Dieu. Une expression qui n'est pas sans rappeler le jeu du tentateur dans le désert. Même l'un des brigands crucifié à ses côtés l'injuriait et lui disait « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » En d'autres termes, utilise ton autorité si tu as l'onction de Dieu, si tu es le roi d'Israël. Les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous rapporte que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, sans doute les mêmes ténèbres qu'au commencement, lorsque l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, prophétisait Ésaïe 700 ans plus tôt. Et Jésus, malgré tout, dans sa souffrance, dans sa solitude, dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus, par sa mort à la croix, a payé le prix. Et on revient à l'un des sens du mot tetelestei, tout est accompli, qui peut signifier aussi payer, s'acquitter de, la rançon a été payée. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien sûr, évoquer la mort de Jésus n'a aucun sens si l'on ne parle pas de la résurrection. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 15-21. Le troisième jour, donc, lorsque les femmes se rendent au sépulcre le matin et se demandent comment elles vont bien pouvoir rouler la pierre, eh bien, à leur plus grand étonnement, elles constatent que la pierre a déjà été roulée et que le corps de Jésus a disparu. Marie de Magdala, dans une profonde tristesse, se retrouve face à deux anges qui lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et elle leur répond « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. » Puis, un mystérieux jardinier s'approche d'elle et vient lui poser cette même question. Et elle lui répondra « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Après quoi Jésus se dévoile à elle en l'appelant par son nom, Marie. Et c'est alors qu'elle le reconnaît. Elle s'écrit « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Marie ne l'avait pas reconnu avant que Jésus l'appelle par son nom. Ainsi, les brebis entendent la voix du berger, il les appelle par leur nom, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais en la voyant venir à lui, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et à cet instant, Jésus lui dit donc finalement que sa mission n'est pas totalement terminée. C'est intéressant de constater que bien que sa mission ne soit pas terminée, Jésus vient en personne. Il prend la peine de venir parler à Marie, après que les anges lui aient déjà parlé. Dans l'évangile de Marc, nous lisons précisément « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. » Jésus doit encore aller donc auprès du Père. Il prend néanmoins le temps de venir la rassurer d'une part et de faire d'elle un témoin. Alors même que les disciples ne croiront pas les femmes. Mais Jésus connaît son cœur, il connaît sa foi, il connaît sa fidélité. Il nous montre ainsi qu'il sait prendre le temps avec chacun, avec chacune. Bien qu'ici, la mission rédemptrice de toute l'humanité, de tous les âges, ne soit pas terminée. Jésus a un contrôle total sur les événements de la vie. Dans l'Épître aux Hébreux, nous pouvons lire « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. » Lorsque Jésus a rendu l'esprit à la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, dévoilant ainsi le lieu très saint. Je rappelle juste au passage que lorsqu'on évoque le voile du temple, on parle d'un immense rideau qui faisait environ 9 mètres de large sur 18 mètres de haut et dont l'épaisseur fait entre 7 et 13 centimètres apparemment. Autrement dit, ce n'est pas un mouchoir qui s'est déchiré. Et cela afin de laisser place à un sacrifice d'expiation qui est plus grand, qui n'est désormais plus terrestre. Jésus s'est sacrifié, il a donné sa vie, puis il est ressuscité, a revêtu la tunique du souverain sacrificateur qui lui seul peut entrer dans le lieu très saint auprès du Père pour accomplir dans le sanctuaire du temple céleste, cette fois sur l'autel de Dieu, les prescriptions prescrites dans le livre du Lévitique. L'Épître aux Hébreux nous dit encore, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Jésus ne pouvait donc laisser personne le toucher, car il avait revêtu donc cette tunique de grand prêtre, de Cohen Gadol, sanctifié, purifié, prêt à assurer son rôle de rédempteur de l'humanité dans les lieux célestes. Et cette fois-ci, contrairement à tous les sacrifices qui étaient réalisés dans le temple terrestre à Jérusalem, celui-ci a lieu hors de l'espace, hors du temps, rendant ainsi l'œuvre de Christ permanente pour toute personne, en tout lieu et en tout temps. Dieu qui est incréé, éternel, omniscient, est venu dans notre temps pour accomplir un sacrifice perpétuel acté dans les lieux célestes. Jésus a ainsi mis un terme. C'est aussi le sens du mot « tetelestai ». C'est terminé, c'est fini. Il a vaincu l'ennemi pour nous tous, pour tous ceux qui se confient en lui et croient en son œuvre. Et croire en son œuvre, c'est tout simplement croire qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le soir venu, Jésus, qui est donc allé auprès du Père, revient, et cette fois-ci auprès de ses disciples, en leur disant « La paix soit avec vous. Shalom aleichem. » Les disciples pensaient voir un esprit, ils ont pris peur, mais Jésus insiste en disant « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et après, il leur propose de prendre un repas de fraternité, un repas qui signifie dans la tradition orientale « Je partage mon pain avec vous. » Et là, il partage pleinement, il a partagé son corps avec chacun. Et il dit ainsi « Je suis en paix avec vous. » Par Jésus-Christ, Dieu est en paix avec chacun. Ce n'est pas par nos mérites, c'est par sa toute-puissance d'amour. Et je pense que Jésus nous invite maintenant, chacun, à prendre ce repas de la paix avec lui. Dieu ne veut pas 99%, il veut 100%. Il ne veut pas un cœur sur deux, il en veut deux. Même si cela peut paraître impossible avec un regard humain, par les promesses du Père, nous pouvons y croire. Par l'Esprit Saint, nous pouvons prendre de la hauteur. Par Jésus-Christ, nous pouvons en avoir l'assurance. Prendre ce repas qui revient à dire au Seigneur, « Oui, je suis pécheur. Oui, j'ai pu vivre loin de toi. Et même si je t'ai donné ma vie, je reconnais que ma fidélité, eh bien, elle est parfois si frêle, que je ne suis pas toujours dans une pleine obéissance, que je ne suis pas toujours suffisamment à ton écoute. » Et qu'à tort, parfois, je ne veux en faire qu'à ma tête. Et je te demande pardon, Seigneur, pour tout cela. Oui, je ne suis pas digne et aucune bonne œuvre que je puisse faire dans le monde ne pourra me rendre juste aux yeux du Père. Mais je crois en la justification par la grâce de Jésus. Je crois que par ses meurtrissures, aucune maladie ni aucune puissance des ténèbres ne pourra mettre fin à la volonté de Dieu sur ma vie. Car elle appartient à celui qui est oint, à celui qui a tout donné pour moi. Je crois que Jésus, par son sacrifice parfait à la croix, a porté dans sa chair, dans son esprit, tous mes péchés, tout châtiment, toute malédiction, et a ainsi brisé le joug de la désobéissance et de l'ennemi. Et je crois que par son œuvre rédemptrice, en présence du Père et de son Saint-Esprit, dans les lieux célestes, le bonheur, la grâce, la paix et la victoire ont été proclamés sur toute la création. Amen.